Voici un enseignement donné dans le cadre de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez, en principe, la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite prêché avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour toute personne qui l'écoute.
C'est le moment des lectures pour la prédication. La prédication portera sur l'épître de Jacques, la suite de ce que nous avons entrepris depuis plusieurs mois maintenant. Mais déjà, deux passages complémentaires. Nous lisons Matthieu 6, les versets 19 à 21, puis le verset 24. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis nous passons au verset 24, un tout petit peu plus loin. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et sur ce même thème, passons maintenant à l'épître de Paul à Timothée, chapitre 6, les versets 9 à 10, puis 17 à 19. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Et nous passons au verset 17 du même chapitre. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Voilà, donc on a bien cerné le thème de l'épître de Jacques, qui sera la base de la prédication tout à l'heure. Et nous en sommes dans Jacques, chapitre 5, dernier chapitre, et nous lisons les versets 1 à 6. Jacques 5, verset 1. À vous maintenant, les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie ! Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans la volupté et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste et il ne vous résiste pas. Merci à Timothée de s'être préparé pour nous enseigner la parole de Dieu. Merci.
Parfois, nous pouvons croire que d'avoir une rapidité de réflexion, une capacité de synthèse et de faire des liens dans nos têtes, c'est très riche face à la Bible. Eh bien, pour nous, notre seule richesse qui durera pour l'éternité est l'éclairage du Saint-Esprit de cette parole. Et nous comptons sur l'œuvre du Saint-Esprit encore ce matin en ouvrant cette épître de Jacques ensemble. Nous continuons ce périple dans cette épître, hein, où on prend texte après texte. Je ne pense pas que c'est un texte qu'on choisit facilement pour prêcher celui-là, mais voilà, on va l'aborder ensemble ce matin. Et nous sommes dans la partie que j'ai intitulée « Une artillerie ancrée dans la foi contre divers maux ». On avait déjà commencé à parler de cette artillerie ensemble. Et Jacques, en fait, parle dans sa lettre de différents éléments qui soulignent la foi. Donc, dès le début, il parle des épreuves qui vont souligner la foi. Il va passer par différentes étapes et nous parler aussi de la foi vivante, de la foi morte. Vous vous souvenez sûrement de ces différents passages que l'on a vus. Et voilà que Jacques commence à écrire comme dans le livre des Proverbes, à donner des conseils, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ce que Jacques dit de ne pas faire, en fait, ici, est ce que nous faisons lorsque nous ne vivons pas selon la foi en Jésus-Christ. Donc, il a parlé de cette foi qui est vivante, et là, il dit des choses qu'il ne faut pas vivre, et ça, c'est ce que nous vivons si nous ne vivons pas selon la foi en Jésus-Christ. On a déjà parlé de deux éléments ensemble dernièrement dans le chapitre 4. Le premier, c'était la médisance, vous vous souvenez peut-être, que celui qui vit par la foi ne vit pas dans la médisance. Ensuite, on a vu un deuxième, c'était quoi, vous vous souvenez ? Pardon ? L'arrogance, exactement. Demain, je ferai ceci, je ferai cela. Quelque part, regardez-moi comme je suis bien, etc. Et là, ce texte nous a aidé à voir, non, c'est si Dieu le veut. Donc, cette notion de nous remettre à Dieu et d'avoir cette grâce de pouvoir nous en remettre à lui. Et donc, ces deux aspects nous poussent, en fait, à l'encouragement, au lieu de la médisance, l'encouragement, et au lieu de l'arrogance, à l'humilité. Et aujourd'hui, le sujet du jour est l'avarice.
Ça veut dire quoi ?
Que veut dire l'avarice ? Eh bien, l'avarice, c'est un attachement excessif à l'argent. C'est la passion d'accumuler, de retenir les richesses, si vous voulez. Ça, c'est l'avarice. Ce qui n'est pas compatible avec la foi en Jésus-Christ. Et nous allons suivre ce texte simplement ce matin, et je vous propose quatre étapes dans ce texte. La première, c'est que l'avare va tout perdre, mais pas celui qui a la foi. C'est le premier point, versets 1 à 3a. Ensuite, deuxième point, le riche avare amasse, pas celui qui a la foi. Ensuite, verset 4, le riche avare retient, pas celui qui a la foi. Et quatrième point, versets 5 et 6, le riche centré sur lui tombe dans le péché, celui qui a la foi s'en éloigne. Voilà les quatre étapes que l'on va vivre ensemble ce matin dans ce texte. Et je vous propose de relire les versets 1 à 3 pour qu'on puisse être bien dans ce sujet. « À vous maintenant, les riches, pleurez à grands cris à cause des malheurs qui viendront sur vous. Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités, votre or et votre argent sont rouillés et le rouille s'élèvera en témoignage contre vous et déposera et dévorera votre chair comme un feu. » Jusque-là. Alors j'ai une question. Qui est riche? Bon, je ne vais pas trop vous demander de lever la main, mais on peut réfléchir. Qui est riche parmi vous? Alors peut-être que vous pensez à Bernard Arnault, ou Elon Musk, ou Jeff Bezos. Enfin, j'ai été vérifié, c'est les trois personnes qui ont les plus grandes fortunes actuellement, en janvier 2024. C'est des 200 milliards, enfin voilà, c'est des chiffres qui nous dépassent complètement. Or, quand on parle des riches, souvent on parle de, bah de ceux-là. J'ai bien aimé un petit commentaire que disait John MacArthur, et je vous le livre comme ceci. « Riche, c'est-à-dire ceux qui disposent de plus que ce dont ils ont besoin pour vivre. » Ça, c'est un riche. « Riche, c'est-à-dire ceux qui disposent de plus que ce dont ils ont besoin pour vivre. » Et là, nous nous rendons compte que malgré le fait que nous n'avons pas vraiment des gens très fortunés parmi nous, eh bien, quasiment tout le monde dans cette salle a plus que ce dont il a besoin pour vivre. Il suffit de regarder tout ce que nous achetons et qui n'est pas nécessaire pour vivre. Ce texte est donc tout à fait pertinent pour nous, tout à fait pertinent pour chacun. Et nous ne devrions pas nous dire que c'est forcément pour les autres. Donc, on va aller écouter ce texte qui nous concerne. Et Jacques parle ici des richesses que l'on possède dans notre vie sur terre. Certains pourraient dire « moi, je suis riche en Christ ». Excellent, c'est très bien. Ce n'est pas de ces richesses-là que Jacques parle ici. On y est encouragé, évidemment, aussi. Mais il parle ici un peu comme un prophète de l'Ancien Testament, tout en se basant sur ce que Jésus a dit lui-même. Or là, je dois vous dire, j'ai dû beaucoup, beaucoup me limiter. Parce que là, si maintenant je vais faire tous les liens avec l'Ancien Testament, avec tout ce qui a été dit, eh ben on en aurait déjà pour jusqu'à midi. Donc je vous dis simplement que Jacques parle comme un prophète dans l'Ancien Testament. Et il utilise trois images d'époque pour parler des richesses. Donc si on regarde les versets ici devant nous, donc trois images pour parler des richesses. Quelles sont les richesses à l'époque qui sont importantes, qui permettent de voir qu'il y a de la richesse? Eh bien, la richesse au niveau alimentaire, c'est le premier élément qu'il souligne ici. Et dans une société agraire, les récoltes étaient en fait une grande partie des richesses. Mais Jacques dit que la pourriture existe. Et il est vrai qu'il suffit d'un incendie, d'une inondation, d'un ravageur ou autre pour que cette richesse disparaisse. Deuxième type de richesse, la richesse au niveau vestimentaire, par des tissus de valeur cousus à différentes matières qui pouvaient aller jusqu'à des fils d'or. Les riches investissaient dans des habits qui pouvaient même devenir des parts d'héritage, en fait. Sans parler du but de l'apparat, de montrer en fait tout ce que l'on avait, de se pavaner devant les autres. Mais Jacques dit qu'il suffit de petits insectes. Exact. Des mites. Vous avez déjà vu ce qu'ils font, les mites? Ils font des trous. Il suffit de petits insectes pour que les vêtements soient troués et perdent toute leur valeur. Troisième type de richesse, les richesses au niveau de la monnaie, de l'argent, si vous voulez, qui à cette époque était fait avec de la matière qui pouvait s'altérer, bien qu'aujourd'hui, c'est pas facile de casser des pièces de monnaie, ça c'est vrai, mais bon, déchirer les billets, ça c'est pas encore trop difficile. Et ensuite, ça a plus beaucoup de valeur. Et Jacques dit qu'il suffit là que la rouille s'y mette et toute la monnaie perd sa valeur. Et si j'actualise un petit peu, si Jacques était ici maintenant, il dirait « il suffit d'un petit virus informatique ou d'une escroquerie technologique et plus rien n'est sur vos comptes ». C'est pas grand-chose en fait. Et voici ce que Jésus dit, on a lu tout à l'heure. Jésus dit dans Matthieu 6, 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent, où les valeurs, où les voleurs, percent et dérobent, mais amasser des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En fait, celui qui a la foi vit à l'opposé de ce que Jacques dénonce ici. Il vit à l'opposé de ce que Jacques dénonce. Celui qui vit par la foi base sa vie non pas sur sa richesse, mais sur sa relation avec Dieu. Voilà sa base. Ce n'est pas sa richesse ici-bas qu'il a, c'est sa relation avec Dieu. Et la richesse que Dieu lui donne, ou les biens que Dieu lui donne, il peut les utiliser, bien sûr. C'est un don de Dieu. Les biens que Dieu donne à celui qui a la foi en Jésus-Christ seront utiles pour vivre à la gloire de Dieu, pour faire avancer son royaume, pour annoncer l'évangile, pour fortifier les croyants dans la foi, pour prendre soin premièrement des frères et sœurs en Christ qui en ont besoin, et ensuite de s'étendre aux besoins extérieurs. Celui qui a la foi s'attache à Dieu et non pas à Mammon. Il cherche en fait à amasser des trésors dans le ciel. Et justement, le riche, qu'est-ce qu'il cherche ? À amasser des trésors sur cette terre. C'est justement notre point suivant, c'est la fin du verset 3, hein, où il est dit, si vous regardez avec moi, « Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Vous thésaurizo. » Ça, c'est le mot qui est là. Mais ça vous parle déjà, parce que le mot utilisé dans l'original nous fait penser à thésauriser. On a déjà le mot avarice qu'il fallait comprendre, mais dans le mot thésauriser, ça veut dire quoi thésauriser ? C'est l'idée de mettre de côté une quantité d'argent considérable sans le dépenser ni le faire fructifier. C'est ça thésauriser. C'est mettre de côté une quantité d'argent considérable sans le dépenser ni le faire fructifier. Et c'est en plus, il parle ici, en ces jours qui sont les derniers, un temps qui n'est pas propice. Parce que tant que Jésus n'est pas revenu, en fait, nous sommes dans un temps de grâce à mettre au profit pour annoncer l'évangile, pour que le plus possible vienne à Jésus. Ce temps qui est là, un temps de grâce, il n'est pas là pour s'enrichir, il est là pour annoncer l'évangile. De plus, avoir de la richesse et ne pas aider son frère qui est dans le besoin, donc si on est dans la thésaurisation, hein, c'est en fait retenir l'amour de Dieu. Ça, c'est Jean qui le dit. Hein. Moi, je vous transmets simplement ce que la parole de Dieu nous enseigne. Si vous allez dans 1 Jean 3, au verset 17, il est dit « Si quelqu'un possède les biens du monde, donc c'est possible d'en avoir, hein, qu'il voit son frère dans le besoin, et qui lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Est-ce que vous connaissez M. Lafontaine ? Ça vous dit quelque chose ? On a le corbeau et puis le fromage, hein, ça je crois qu'on connaît bien. Mais en fait, il écrit autre chose, qui s'appelle « L'avare qui a perdu son trésor ». Ça vous dit quelque chose ? Alors, c'est une illustration parlante et je vais la paraphraser. Je ne vais pas juste lire, c'est un peu du vieux français, je trouvais que c'était moins compréhensible. Donc, je vais la paraphraser. Un homme avait un grand trésor avec beaucoup d'argent et d'or. Il avait caché ce trésor dans la terre et n'y touchait jamais. Ce n'est pas lui qui possédait l'or, c'est l'or qui le possédait. Avec son trésor, il avait aussi enterré son cœur, car il y pensait jour et nuit et allait souvent soulever la pierre qui cachait son butin pour l'admirer. Quelqu'un, l'ayant observé, alla prendre tout son trésor. Lorsque l'avare revint voir son trésor, il avait disparu. Il poussa un grand cri et qui ameuta un passant qui lui demande ce qui se passe. « On m'a pris mon trésor !»« Mais pourquoi l'avez-vous caché ici et ne l'avez-vous pas gardé chez vous pour faire bon usage ?»« L'utiliser ? Mais vous n'y pensez pas ! l'argent que l'on prend, revient-il comme on l'a sorti du trésor ? Je n'y touchais jamais. » Le passant lui dit, « Mais alors, puisque vous n'y touchiez jamais à ce trésor, mettez une pierre à la place dans ce trou et il en vaudra tout autant. » Des biens non utilisés sont comme ce trésor qui ne vaut pas plus qu'une pierre. D'ailleurs, même en prévoyant de l'utiliser une fois, peut-être qu'une fois on va l'utiliser, vous ne savez pas quand vous allez mourir. Jésus a aussi raconté une histoire à ce propos. Elle se trouve dans Luc 12, verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et se disait, « Que ferais-je ? Je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. » « Ah, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands, j'y amasserai tout mon blé et tout mon bien, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sert-il ? » Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. L'avare ou l'insensé, selon la parabole de Jésus, amasse des biens sur terre et se croit ainsi à l'abri. J'ai mon trésor que je peux aller regarder, je vais soulever ma pierre, il est là. Alors qu'un crash boursier, une inflation, une catastrophe naturelle ont déjà ruiné bien des personnes très riches. En fait, celui qui a la foi en Jésus-Christ ne cherchera pas à thésauriser et à amasser le plus d'argent possible. En fait, il va gérer les biens que Dieu lui confie avec sagesse, avec prudence, avec générosité, cherchant le bien commun et investissant dans l'annonce de l'Évangile. Voilà ce que fait celui qui a la foi. Parce que celui qui a la foi en Jésus-Christ n'a pas besoin d'avoir un grand compte en banque pour se sentir important. Il est déjà fils de Dieu par adoption. Il n'a pas besoin d'avoir une assurance avec une grande somme d'argent. Cette assurance, il l'a dans celui qui prendra soin de lui chaque jour. Il n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour faire des grandes choses. Il vit avec le Dieu qui fait des grandes choses. C'est son identité en Christ qui lui donne une valeur, une assurance, et ses actions pour la gloire de Dieu lui assurent de vivre des choses qui ont du sens et de la valeur. Il sait que ce n'est pas le moment ici d'amasser une grande richesse qui passera et qu'il ne pourra pas emporter. Parce que c'est lorsque Jésus reviendra que nous entrerons dans le pays promis, rempli de richesses, stable, sans soucis, sans perte. Si le riche avare thésaurise et amasse, il le fait malheureusement souvent au détriment des autres en plus. Et c'est la prochaine étape que Jacques va souligner. C'est le verset 4. On va le relire. « Voici, le salaire des ouvriers qui moissonnent vos champs et dont vous les avez frustrés crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. » Là, j'aurais pu partir dans le Seigneur des armées. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est tout l'appel de l'Ancien Testament qui parle de ce Dieu tout-puissant. Mais voilà, je n'ai pas choisi d'aller dans cette direction-là. Ici, nous voyons une technique pour s'enrichir encore. Vous savez, je vais vous donner une technique. Si vous êtes patron, puis que vous avez des employés, en fait, vous ne les payez pas tout de suite, vous les payez Un peu plus tard, puis pendant le temps entre deux, vous faites fructifier l'argent. Comme ça, en fait, vous avez encore un petit peu plus d'argent. Vous voyez un petit peu l'idée ? Puis même, certains ne les payaient même pas. Vous savez, c'est une technique assez moderne actuellement qui est utilisée. Lorsqu'on demande plus de bénéfices, qu'est-ce qu'on fait ? On licencie. C'est comme ça que ça marche, hein, actuellement. On licencie. Et en fait, on licencie des personnes dont on a besoin, généralement. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui revient à demander à ceux qui restent de faire un travail en plus pour lequel ils ne seront pas payés. En fait, c'est très moderne. Hein? Et pourtant, Jésus, étant Dieu dans l'Ancien Testament, donc je dirais Dieu dans l'Ancien Testament, nous indique déjà ce qu'il aime et ce qu'il déteste. Il est écrit dans Lévitique 19:13, « Tu n'opprimeras pas ton prochain et tu ne le déroberas pas. Tu ne retiendras pas chez toi la paye d'un salarié jusqu'au lendemain. » Ou encore dans Deutéronome 24:14, « Tu n'opprimeras pas le salarié pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des immigrants qui résident avec toi dans le pays. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil. » Car il est pauvre et il tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Dieu avait déjà expliqué tout ça dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas changé. Les choses qu'il aime, qu'il a aimées dans le passé, c'est toujours en cours des choses qu'il aime maintenant. C'est un Dieu juste et il le désire. Intéressant parce qu'on a vécu une rencontre entre jeunes et seniors hier, ici. Et lors de cette rencontre, il était possible de partager des paroles qui nous avaient marquées dans notre vie. Et un des seniors a dit que son grand-père lui disait ceci, je cite, « Tout ce qui méritait d'être fait doit être bien fait, et ce qui est bien fait mérite salaire. » On est en plein dans le sujet là. Mérite salaire. La Bible dit quelque chose de semblable hein, dans 1 Timothée 5,18. Hein, « Tu n'embuselleras pas le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. » En fait, nous avons ici un principe biblique de la gestion de la richesse. Celui qui a foi en Jésus-Christ cherchera le bien de ses ouvriers. Comme Boaz, vous connaissez l'histoire de Boaz avec Ruth, hein, tout ça. Mais si vous réfléchissez comment il était comme patron de l'entreprise, là, c'est extraordinaire. Il avait un très bon contact avec ses ouvriers. Quand il arrivait, les ouvriers appelaient à la bénédiction sur lui et lui, il appelait à la bénédiction sur eux. Et s'il le faisait en étant non hypocrite, ce que je crois, eh bien, ils faisaient leur part. Donc, s'ils bénissent leur patron, eh bien, ils se donnent la peine, en fait, en même temps, à faire leur travail. On ne peut pas juste « je te bénis, puis je fais n'importe quoi hein ». Et en même temps, le patron, ben, en bénissant ses ouvriers, ben, il prend soin d'eux aussi, selon les besoins qu'ils ont. Donc on voit cette notion de gestion que Dieu nous demande de vivre. Vous allez me dire, vous n'êtes pas patron. D'accord, c'est possible. Eh bien, simplement payer vos factures dans les temps fait partie du principe de ne pas retenir le salaire des ouvriers, en fait. Payer les factures dans le temps... Et en fait, c'est fait partie du principe de ne pas retenir le salaire des ouvriers. Parce que si tout le monde ne paye pas à l'heure et que le patron ensuite doit payer ses ouvriers, qu'est-ce qui se passe ? Ben, il n'a pas les liquidités pour le faire, vous voyez ? Donc on participe en fait, même si on n'est pas patron, aussi de cette manière-là, par exemple. Voilà, nous avons vu que le riche avare va tout perdre. Il amasse et même il retient le juste salaire des ouvriers. Et il y a encore pire. Le riche centré sur lui-même tombe dans plusieurs péchés. Et c'est la suite. Versets 5 et 6. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. En fait, la richesse... donne un accès facilité à beaucoup de choses qui mènent au péché. En fait, la richesse est un véritable test de la foi. Le fait d'avoir des richesses est un test de la foi. Et Jacques en souligne quatre éléments, quatre sujets. Hein. Le premier, c'est les voluptés ou les plaisirs, selon les traductions, on y reviendra. Deuxièmement, le luxe ou les délices, selon d'autres traductions, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet, être rassasié au jour du carnage. Là, on verra que c'est l'égoïsme, en fait, dont il est question ici, très clairement. Et quatrièmement, condamner et tuer le juste. Là, c'est l'injustice qui est présente. Donc, on va essayer rapidement de comprendre ces quatre sujets. Le premier, donc la volupté ou les plaisirs, parle de tout ce qui est sensuel. La richesse amène très facilement au péché sexuel. Et le péché sexuel, c'est tout ce qui est vécu sexuellement en dehors du respect dans le mariage entre un homme et une femme. Et d'ailleurs, un dernier exemple dans l'histoire de l'humanité est l'introduction des sex shops à libre accès pour chacun jusque dans sa chambre. À toutes les personnes qui ont la richesse d'avoir un smartphone. Vous voyez, la richesse apporte des grandes tentations, des grands tests de la foi. Deuxième sujet de luxe et de délices, qui sont en fait comme le sucre que l'on prend et qui rend addictif. Hein? On n'en a jamais assez. Dès qu'on y goûte, dès qu'on commence à goûter au luxe, on en veut plus. Et cela ne satisfera jamais vraiment. Jacques qui le souligne ici. Troisièmement, être rassasié le jour du carnage. C'est en fait être égoïste. Moi, je vis quelque chose de bien, les autres, c'est égal ce qu'ils vivent. En réfléchissant à ça, moi j'ai une illustration qui m'est venue en tête, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esther, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a Assuérus avec Aman. Aman, il vient d'envoyer une lettre dans toute la province que les Juifs ont été tués. Vous savez ce qu'ils font ces deux? Ils boivent un coup ensemble. C'est vraiment ce qui est écrit dans le texte, vous pouvez les lire dans Esther 3.15. Donc alors que toute la ville de Suse est dans le deuil à cause du décret du carnage de tous les Juifs, eux, ils boivent. Ils font la fête. C'est ça, être rassasié au jour du carnage. C'est l'égoïsme. Et dernier élément, la condamnation du juste est souvent utilisée pour se faire de l'argent. Est-ce que vous avez un exemple dans la Bible, comme ça, de quelqu'un qui a pris la vie à quelqu'un parce qu'il voulait plus de richesses? Il y en a plusieurs, ouais, c'est très bien. Mais j'ai entendu que Naboth est aussi sorti. Donc, c'est très bien. Donc, on peut penser à Naboth, hein, que Jézabel fait tuer pour donner la vigne à Akab, qui pourtant était roi et avait déjà des richesses. Mais ça peut être plus subtil, comme des multinationales qui font l'extraction de matières premières dans des conditions qui condamnent les ouvriers à mourir très jeunes, par exemple. C'est la même chose. Mais il est vrai que je ne peux pas quitter ce quatrième sujet sans parler du juste qui a été condamné et qui a été tué et qui n'a pas résisté. Jésus-Christ a été mis à mort par des riches qui étaient jaloux de sa popularité. Et ils ont sûrement été gênés dans leurs affaires. D'ailleurs, il a quand même fait un peu d'ordre dans le temple que Jésus a lui-même appelé une caverne de voleurs. Et qui était responsable de ces lieux-là? C'est les mêmes qui l'ont accusé pour le faire mourir. Et Jésus n'a pas résisté. Parce qu'il était venu donner sa vie justement pour vaincre la mort et tout péché, y compris les péchés commis par les riches. Donc Jésus n'a pas résisté parce qu'il était venu donner sa vie justement pour vaincre la mort et tout péché, y compris ceux commis par les riches. Alors j'aimerais nous avertir tous ici. Quand on est en train de passer ces différentes parties de Jacques, eh bien, on commence à se rendre compte, si l'Esprit de Dieu travaille dans nos cœurs, que ce n'est pas tout net. Je ne sais pas si ça vous fait ça, hein, mais moi, quand je vais dans ces textes, la dernière fois, on avait parlé de tout ce qui était péché par omission. Puis j'avais dit, moi je me suis rendu compte encore plus en étudiant ce texte que la noirceur, le péché qui est là, et ça peut que me pousser à me repentir en fait. Et il faut être conscient en fait qu'on ne doit pas se dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce texte me parle. C'est une bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Mais pour nous délivrer, pas pour nous enfoncer, il ne fait jamais ça. Il veut nous délivrer. Et c'est important de le comprendre ici, hein. Reconnaître ensuite notre péché et on va pas chercher à se justifier. Ouais, mais circonstances atténuantes. Vous savez quoi, les circonstances atténuantes ne nous ont délivrés d'aucun péché. Ils ont fait que les cacher sous la moquette et puis en plus ça commence à puer puis on sait même plus ce qu'il y a dessous. Non. Reconnaître et ensuite se tourner vers celui seul qui peut nous délivrer de ses péchés et nous permettre d'être libres et de changer de direction. C'est lui qui va nous donner cette grâce. Ce n'est pas en cachant, en disant on n'a pas ses fautes, non. Mais c'est lorsque nous regardons à Christ. Et là, je nous encourage tous, quand on est repris, et c'est normal qu'on ait repris parfois quand on étudie la parole de Dieu, tournons-nous vers Christ, qui est celui qui est venu pour nous donner la vie. Bon, alors, suite à ces six versets de ce matin, vous vous dites peut-être, ce qu'il faudrait simplement, c'est pas avoir d'argent et d'être pauvre pour vivre comme Dieu le désire. C'est plus simple. Vous savez comment ça s'appelle ça? C'est de l'ascétisme. C'est pas du christianisme. C'est pas la même chose. Vous savez, un des hommes les plus riches de la terre nous montre un exemple à suivre. Je vais juste vous lire quelques passages de la parole qui nous dit ceci. « Il y avait dans le pays d'Outz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. » Vous voyez, si vous prenez tous les éléments, vous verrez qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous encouragent. « Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Son ami Eliphaz d'ailleurs témoigne. « Voici, tu as donné des leçons à beaucoup, tu as fortifié les mains languissantes, tes propos ont relevé celui qui trébuchait, tu as affermi les genoux qui pliaient. » Et Job, pauvre dans sa souffrance, parle de ce qu'il vivait alors qu'il avait encore sa richesse. Il disait « Car l'oreille qui m'entendait me disait heureux, l'œil qui me voyait me rendait témoignage. En effet, je délivrais le malheureux qui implorait de l'aide » et l'orphelin que personne ne secourait. La bénédiction de celui qui allait périr venait sur moi. Je remplissais la joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice, elle me revêtait. J'avais mon droit pour manteau et pour turban. J'étais les yeux pour l'aveugle et les pieds pour le boiteux. Waouh ! Il ne faut pas être pauvre pour vivre pour Dieu. Il faut vivre pour Dieu avec ce qu'il nous donne. Ça peut être beaucoup ou peu, c'est pas ça l'élément. Et Job, en fait, est une source d'inspiration pour nous. Et il annonce également un personnage encore bien plus riche, en fait. Non, c'est pas Elon Musk, non. Non. C'est celui à qui appartient légalement tout l'univers. D'une manière juste. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu-homme, était le plus riche à vivre sur cette terre, en fait. Donc si vous me dites qu'il faut aller dans l'ascétisme pour... c'était le plus riche. Et il a choisi de se dépouiller pour le bien de son peuple. Mais ce n'est pas dans le sens qu'il est devenu un pauvre homme. Non. Et si nous n'avons pas à suivre Jésus dans son œuvre expiatoire du don de sa vie, lui, il a donné sa vie à notre place. Ça, nous n'avons pas à le faire. On dit qu'on doit imiter Jésus-Christ, c'est vrai, c'est important de suivre ses traces, mais nous n'allons jamais donner notre vie pour quelqu'un d'autre. On a besoin qu'il donne sa vie pour nous. Par contre, nous allons avoir cette même attitude du don de soi. Cette même attitude du don de soi est que tout ce que l'on a, tout ce qu'on a reçu, lui, toutes les capacités qu'il a reçues, il les a utilisées pour s'humilier, pour vivre la mission qu'il avait à vivre pour nous sauver et nous permettre à nous maintenant d'entrer dans une mission qu'il nous confie. Et j'aimerais que nous nous remplissions pour terminer cette prédication de l'exemple de Jésus-Christ, où je vais simplement lire un texte dans Philippiens 2, qui nous parle de Jésus-Christ qui vient, qui, c'est vrai, qui s'abaisse, qui en même temps aussi qui est élevé, donc on a un petit peu les deux aspects qui sont présents, et qui nous aide aussi à nous dire, ben voilà, je veux vivre d'une manière qu'il honore, et c'est lui qui saura ce qu'il fait, s'il m'abaisse, s'il m'élève, ça lui appartient, moi je veux vivre pour lui, selon son attitude. Lisons Philippiens 2, versets 5 à 11. Vous pouvez prendre dans vos Bibles, Philippiens 2, face à ces riches à qui Jacques a parlé, eh bien voilà un contraste ici extraordinaire. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Voilà ce qui m'autorise à nous dire qu'on va entrer dans cette réflexion. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour Jacques qui était aux côtés de Jésus-Christ, qui a vécu à côté de lui, qui a même vécu dans sa famille. Ils étaient ensemble en tant qu'enfants. Ils ont grandi ensemble. Il a pu le voir vivre. Merci parce que dans toute cette épître, il nous pousse à avoir foi en Jésus-Christ. Et c'est vrai, Seigneur, que nous sommes maintenant dans ces passages où il donne des avertissements qui sont forts, des avertissements qu'il veut donner pour que nous ne nous égarions pas. Et j'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à saisir ces avertissements, à comprendre aussi où ça nous mène justement, et que ce que nous pouvons vivre par la foi, qui est justement dans une autre direction que ces mauvaises directions qui sont mentionnées, eh bien, puisse être notre chemin. Éternel, nous voulons te prier de nous donner la grâce de vivre dans l'état où nous sommes par la foi. Et que nous puissions utiliser les richesses, les moyens que tu nous donnes d'une manière qui t'honore. Aide-nous, Seigneur, je t'en prie, à ne pas nous attacher aux richesses. Qu'elles puissent être un outil, si nous en avons. Mais Seigneur, qu'elles ne soient pas une tentation à nous détourner de toi. Garde-nous, Père. Garde-nous de cela et donne-nous la grâce de pouvoir être ceux qui cherchent à être des soutiens les uns pour les autres. Des personnes qui ne cherchent pas à avoir le plus d'argent possible dans son compte en banque. Que nous ne soyons pas non plus les personnes qui cherchent à avoir toutes les dernières nouveautés, alors que nous pourrions donner cet argent à ceux qui en ont besoin. Et pour l'avancement aussi de ton règne. Peut-être même pour ceux qui sont en mission, pour ceux qui ont besoin d'être soutenus, pour que ta parole puisse être annoncée là où c'est plus difficile. Donne-nous, Seigneur, de la sagesse. Et nous te remercions parce que tu vas prendre soin de nous. Nous te remercions parce que tu vas nous donner aussi cette grâce de savoir comment faire même fructifier ce que tu nous donnes pour que nous puissions encore mieux l'utiliser pour ta gloire. Je te remercie pour les dons que tu as donnés à ceux qui ont beaucoup d'argent afin qu'ils puissent bien l'utiliser. Et je te remercie pour les grâces que tu donnes à ceux qui ont moins d'argent, afin qu'ils puissent être heureux de savoir qu'ils sont à ton service et que c'est toi qui prends soin. Éternel, nous savons que tu es un Dieu qui est avec nous et nous sommes conscients que nous sommes plutôt dans un état de richesse ici et nous te prions, Seigneur, de nous aider à avoir nos regards tournés vers toi et pas vers nos richesses. Dans le bon nom de Jésus-Christ, amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez entendre d'autres prédications ou profiter de ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.